France Culture.
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture. Nous nous retrouvons pour Solae, le rendez-vous protestant, magazine proposé par la Fédération protestante de France. Et c'est l'histoire protestante qui sera mise à l'honneur ce matin avec deux éminents spécialistes, le professeur Hugues Dossy et le professeur et historien Hubert Bost. Bonjour Hubert Bost.
Bonjour Jean-Luc Gadreau.
Hubert, quelques mots rapides de présentation pour nos auditeurs. Vous êtes un historien du protestantisme, directeur d'études à l'École pratique des hautes études de l'Université Paris Sciences et Lettres. Alors, c'est le protestantisme et la culture dans l'Europe moderne, c'est-à-dire du XVIe au XVIIIe siècle que vous travaillez.
Voilà, je me promène dans cette période-là et j'essaye de comprendre quelle est l'articulation entre cette confession religieuse et la culture ambiante, la société dans laquelle elle baigne.
Vous avez publié 10 livres en nom propre, si j'ai bien compté. Édité ou coédité autant d'actes de colloques, signé plus de 130 articles. Enfin, vous êtes quelqu'un qui transmet ce savoir.
Ça me paraît faire partie de ma vocation, en effet.
Alors, nous allons parler ensemble d'histoire protestante, naturellement, dans quelques instants. Mais avant, comme évoqué en tout début d'émission, je vous propose d'entendre une courte interview d'Hugues Dossy, réalisée il y a quelques semaines à Strasbourg. Je suis à Strasbourg, dans la toute nouvelle salle Adélaïde, ovale de l'UEPAL, l'Union des Églises Protestantes d'Alsace-Lorraine, à l'occasion du salon Protestant Livre et de la célébration des 500 ans de l'anabaptisme, organisée par la médiathèque protestante de Strasbourg et la librairie Jean Calvin. Et je suis en compagnie d'Hugues Dossy, professeur d'histoire moderne à l'Université de Besançon, un grand spécialiste de l'histoire politique du protestantisme au XVIe siècle, qui vient précisément d'ailleurs de sortir un livre, chez Perrin, intitulé 1540-1685, Histoire politique de la réforme française. Bonjour Hugues Dossy.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous intéresse autant dans cette période de l'histoire de France ?
Alors, je suis spécialisé dans l'histoire du protestantisme, mais de manière peut-être un peu paradoxale, plutôt par l'histoire politique de la minorité religieuse protestante française.
Et qu'est-ce qui vous a amené à vous fixer sur cette particularité ?
Alors, c'est lié aux premiers travaux que j'ai conduits, il y a bien longtemps déjà, qui étaient consacrés à Philippe Duplessis-Mornay. Mmh. Et Philippe Duplessis-Mornay était le principal conseiller d'Henri de Navarre, avant qu'il ne devienne Henri IV, pendant qu'il était chef du parti protestant, chef du parti huguenot. Et la particularité de son action était qu'il avait été le rédacteur de la plupart des écrits politiques huguenots de cette époque, et notamment de tous les textes qui avaient été publiés par Henri de Navarre, en sa qualité de chef du parti huguenot sur le plan politique. Et c'est comme ceci que je suis arrivé à l'histoire politique de la réforme.
Alors, votre dernier livre est une forme de synthèse sur la réforme française. Quels sont les points majeurs qui la caractérisent à vos yeux ?
C'est une synthèse vraiment de la dimension politique de son action.
Hein. Ouais.
Voilà. En fait, je cherche à montrer comment les réformés français ont été conduits à politiser leur action, à la politiser tout simplement parce que c'était la clé pour eux de la survie, hein, pour être acceptés au sein du royaume de France et pour que le roi de France accepte de leur concéder un statut légal. Donc c'est véritablement l'axe du livre, cette conquête d'un statut légal et puis ensuite une période durant laquelle ils ont vécu sous le bénéfice de l'édit de Nantes et enfin dans une dernière phase la rétractation progressive de cette communauté sous l'impact de la répression d'abord Richelieu puis ensuite Louis XIV
jusqu'à
la révocation de l'édit de Nantes. Donc c'est un panorama sur un siècle et demi.
Vous êtes aussi dans ce travail que vous avez effectué sur cette spécificité donc de la réforme un spécialiste du parti huguenot.
Oui, c'est ça. En fait, le parti huguenot, c'est l'organisation politique et militaire dont les réformés français se sont dotés à partir du début des guerres de religion, au milieu de la décennie 1550 et qui a perduré jusqu'à la paix d'Alès en 1629. Et puis il y a aussi une dimension qui n'est pas militaire, qui repose véritablement sur l'analyse de la pensée politique qu'ils ont développée à cette époque de manière parallèle. Le livre s'attache à considérer ces deux dimensions. La dimension organisationnelle, par la création d'un parti.
Militaire même,
mais on insiste surtout sur l'organisation et notamment sur la création d'institutions, comme les assemblées politiques protestantes, par exemple. Et puis par ailleurs sur toute la pensée qu'ils ont dû développer précisément pour soutenir leur volonté d'être acceptés au sein du Royaume de France, non pas comme sujets rebelles, mais comme bons et loyaux sujets du roi.
Et alors, dans cette pensée politique, peut-être deux, trois points que vous pourriez ressortir ?
Oui, en fait, la racine du développement de cette pensée politique, c'est l'affirmation en 1540 par François Ier que hérésie est équivalent à sédition. Donc ça voulait dire simplement qu'à partir du moment où on ne partageait pas la religion du roi, eh bien on était naturellement séditieux.
Séparé, oui.
Toute la démarche des protestants français a été d'expliquer que, en réalité, il fallait considérer en eux une double personnalité, en quelque sorte, une personnalité religieuse, spirituelle, leur qualité de réformé, et puis de manière séparée, une personnalité politique, leur qualité de sujet. Et donc, tout le livre évoque notamment la manière dont ils ont réussi à obtenir de l'État qu'on accepte cette séparation entre la sphère politique et la sphère religieuse pour accepter que des non-catholiques puissent être considérés aussi comme des bons sujets du roi.
Alors, dans votre livre aussi, vous observez que les protestants peuvent être vus dans ce moment de leur histoire comme une communauté socialement diverse, souvent divisée, mais qui se retrouve unie dans une communauté de foi dont la lecture de la Bible était le socle.
Oui, alors bien sûr, il y a la communauté de foi qui unit la communauté réformée. Ils sont parfois divisés sur le plan politique parce que si on considère ce parti protestant, ce parti huguenot, il a en réalité deux dimensions. Il y a la dimension, on va dire, qui est incarnée par la grande noblesse. On va appeler ça le parti des princes, pour faire simple. Le prince de Condé, le roi de Navarre, l'amiral de Coligny, etc. Et puis, il y a les provinces méridionales qui, elles, de leur côté, pensent surtout à défendre les communautés locales et qui ont peut-être des objectifs différents. C'est elle d'ailleurs qui crée les assemblées politiques. Donc ce parti huguenot, il est un peu divisé sur le plan politique, mais il est tout à fait uni, bien sûr, sur le plan de la foi. Là, ça, les choses sont tout à fait...
On se retrouve là,
on se retrouve
de la Bible.
On se retrouve dans ce domaine-là sans aucune difficulté, oui, tout à fait.
Merci au professeur Hugues Dossy de m'avoir accordé ce moment. Professeur, mais aussi depuis peu, nouveau président de l'université Marie et Louis Pasteur en Franche-Comté. Je rappelle le titre de son dernier livre aux éditions Perrin, 1540-1685, Histoire politique de la réforme française. Hubert Bost, vous vous connaissez bien d'ailleurs avec Hugues Dossy.
Oui, nous avons beaucoup collaboré sur ces sujets. Au fond, nos périodes se chevauchent un peu et surtout se succèdent. Je prends en quelque sorte le relais après la révocation de l'édit de Nantes des travaux que Hugues a conduits pour le 16e et le début du 17e.
Alors c'est ce que nous allons faire. On va prolonger cette discussion sur l'histoire de la réforme et on va donc sur cette deuxième période, seconde partie du 17e et le 18e jusqu'à l'édit de Versailles, dit de tolérance de 1787. Alors il y a dans un premier temps la marche du pouvoir royal vers cette catastrophique révocation de l'édit de Nantes au moyen de l'édit de Fontainebleau, 18 octobre 1685, qui signe l'interdiction du culte protestant.
Voilà, alors évidemment, confessionnellement, elle est catastrophique. Elle est saluée à grand fracas par les vecteurs médiatiques de l'époque comme un très très grand succès, puisque Louis XIV réussit à faire ce que ni son grand-père ni son père Henri IV et Louis XIII n'avaient réussi à faire, c'est-à-dire réunifier confessionnellement le royaume de France, rendre la France toute catholique. Évidemment, nous avons un regard différencié sur le bilan de cette révocation, mais les contemporains étaient absolument enchantés par les résultats de la politique confessionnelle de Louis XIV.
Alors, quelle est l'attitude des protestants à ce moment-là ?
En fait, ils n'ont guère de choix, puisqu'ils sont censés rester dans le royaume, sauf les pasteurs qui sont obligés de s'exiler au moment où, en octobre, l'édit de Nantes est révoqué. Certains pasteurs vont se convertir pour éviter de s'exiler, d'autres vont s'exiler mais revenir, et d'autres encore vont faire souche dans ce qu'on appelle le refuge huguenot. Les pays protestants, souvent limitrophes de la France, l'Angleterre, les Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas, la Suisse et l'Allemagne. Quant aux fidèles, eux, ils sont censés se faire instruire et se catholiciser progressivement, ce qui de fait va réussir en très grande partie pour un pan important de la population française protestante, mais qui va susciter aussi, de la part d'un nombre significatif d'entre eux, des conduites de résistance soit clandestine et privée, soit progressivement publique, avec les fameux cultes du désert, dont on pourra reparler tout à l'heure.
Voilà. Alors, avant de parler justement de cette période du désert, je voulais revenir sur un personnage que vous avez beaucoup travaillé, écrit plusieurs livres à son sujet, c'est Pierre Bayle, un philosophe, fils de pasteur protestant. Olivier Abel en parle comme d'un penseur paradoxal. Qu'a-t-il de symptomatique ou justement de paradoxal pour vous, Hubert Bost ?
Alors, je me retrouve assez bien dans cette expression d'Olivier Abel. Je trouve que Bayle a ceci d'étonnant, de déconcertant, qu'il est à la fois se revendique fidèle à sa foi protestante et qu'il ne cesse de la remettre en question de manière critique. Et que d'autre part, face aux théologiens de sa confession, et en particulier celui qui a d'abord été son collègue avant de devenir son ennemi, le pasteur Pierre Jurieux, il est extrêmement critique à l'égard de tout ce qui peut donner l'impression que les protestants ne font pas cette séparation salutaire et même nécessaire entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Mmh. Cette séparation est vitale, sans laquelle les protestants sont en quelque sorte discrédités aux yeux du pouvoir. Et il se trouve que Bayle va devoir quitter la France, une première fois parce qu'il a dû se reconvertir au protestantisme après 18 mois de catholicisme lorsqu'il était jeune, et une deuxième fois surtout lorsque l'Académie de théologie de Sedan, dans laquelle il enseignait la philosophie et l'histoire, a fermé. Et c'est alors qu'il s'est installé à Rotterdam et qu'il a en quelque sorte libéré sa plume, puisqu'il n'était plus sujet à la censure, et qu'il a pu en quelque sorte s'exprimer de manière critique et à l'égard de sa propre confession et à l'égard du pouvoir de France, vis-à-vis duquel pourtant il est resté toujours très loyal.
Avec l'interdiction du culte protestant, vous évoquiez la résistance, période que l'on appellera aussi celle du désert. Et vous repérez et identifiez plusieurs périodes dans ce temps du désert.
Oui, si on essaye de regarder un peu la longue période à laquelle il correspond, c'est-à-dire le siècle, en gros de 1685 à 1787, édit de Versailles, ou 1789, révolution française et déclaration des droits de l'homme avec l'article 10 sur la liberté religieuse, on voit qu'il y a une période de désordre prophétique, oui, qui est en quelque sorte celle qui suit le traumatisme qu'a constitué la révocation de l'édit de Nantes.
Comme une réaction, en quelque sorte.
Voilà. C'est une réaction, mais la réaction d'un peuple qui est privé de ses cadres. Les pasteurs étant partis. Et pendant cette période, qui correspond à peu près à la fin du règne de Louis XIV, c'est-à-dire 30 ans, on a une sorte de d'efflorescence prophétique tout à fait extraordinaire, qui se traduit par des inspirations, des mouvements de prédication de laïcs, qui se traduit aussi par cet extraordinaire conflit qu'a été la guerre des Cévennes, pendant cette période. Ouais. Et puis ensuite s'ouvre une période que j'appelle plutôt un désert synodal, où les protestants commencent tant bien que mal à se réorganiser, bien que dans la clandestinité, Et ils s'organisent en se redotant d'églises, de catéchismes, de pasteurs. Et ces pasteurs vont se former à Lausanne à partir de 1729.
C'est dans cette période qu'on retrouve les maisons de prière également qui se mettent en place, oui, maisons d'oraison.
Plus tard, les maisons de prière, parce que dans la première période, c'est vraiment c'est en plein air qu'on fait les cultes. Donc on essaye de retrouver l'encadrement ecclésiastique dont on bénéficiait sous l'édit de Nantes. Bien que l'édit de Nantes et cette période-là soient profondément différentes, dans la mesure où l'édit de Nantes s'était autorisé, cette période-là s'est interdite.
Et troisième période ?
La troisième période, je dirais après les années 1760, après les grandes affaires qui, notamment autour de Toulouse, ont ému l'opinion publique, dont la plus célèbre est évidemment l'affaire Calas, on a une période dans laquelle le désert est toléré. C'est-à-dire qu'au fond, pendant presque une trentaine d'années, il y a, à de rares exceptions près, peu de mesures de rétorsion qui sont prises à l'encontre des protestants, et on marche vers une reconnaissance de fait des protestants, à savoir qu'on les laisse s'assembler pourvu qu'ils ne fassent pas de désordre, et qu'on reconnaît en gros, je ne peux pas entrer dans les détails ici, un état civil qui, de fait, s'impose aux autorités religieuses et politiques.
Revenons sur les personnages. Alors, Pierre Bel, philosophe, il meurt en 1706. On est au début du XVIIIe siècle, ce fameux siècle des Lumières. Alors justement, comment se situeront les Huguenots par la suite ? Est-ce qu'il y aura des hommes de lettres qui vont faire parler d'eux dans ce temps-là particulier ?
Alors, il faut dire plusieurs choses là. La première chose, c'est que pendant le début du XVIIIe siècle, la prise de parole des protestants se fait surtout depuis l'étranger, depuis le refuge. Oui. C'est-à-dire que ce sont soit des journalistes, soit des philosophes, des penseurs, des hommes de lettres, des pasteurs, bien sûr, qui prennent la parole au nom de ces églises, qui en sont dépossédés et incapables de la prendre, et incapables aussi de publier leurs propres travaux. Et puis, dans la deuxième partie, celle surtout du désert toléré, on commence à voir des plumes pastorales ou non pastorales, et j'ai eu l'occasion de travailler sur deux d'entre elles, qui s'expriment sur le rapport entre politique et religion, église et état, autorité du roi et autorité de la conscience qui s'impose aux croyants. L'un d'eux, c'est le fils du pasteur Antoine Cour, qui est pasteur lui-même, qui s'appelle Cour de Géblin, qui a marqué en son temps la contribution protestante à la défense de la mémoire de Jean Calas, mais aussi de celle de François Rochette, pasteur qui avait été son élève au séminaire de Lausanne. Et puis l'autre sur lequel je me suis penché plus longuement, qui est La Baumelle, dont j'ai publié la correspondance, qui est tout à fait passionnante. La Baumelle est un homme, c'est un laïc. Il a failli être pasteur, mais il a, comme Bayle d'ailleurs, il a renoncé à cette vocation. Et il a été l'un des grands contributeurs restant à redécouvrir de la pensée protestante de cette question-là, du rapport entre politique et religion.
De façon plus générale, quel est pour vous, Hubert Bost, l'intérêt de se pencher sur l'histoire d'une minorité religieuse comme celle des protestants ? Et puis, est-ce qu'on peut s'y référer pour penser peut-être à la situation d'aujourd'hui ?
C'est une question passionnante et redoutable, parce que...
On pourra y revenir dans une autre émission plus longuement.
Je reviendrai volontiers développer ce point. Mais pour le dire en deux mots, étant moi-même protestant, je ne peux pas me défausser par rapport à cette question d'identité, de mémoire que j'ai en quelque sorte héritée. Et je ne veux pas faire semblant de ne pas l'avoir reçue. Elle m'a forgée en quelque sorte. Mais, deuxième temps, je crois que très important de faire de l'histoire en me, en m'émancipant, en quelque sorte, de ce que pourrait avoir de contraignant cette mémoire ou cette identité personnelle. Et lorsque je fais de l'histoire, à l'école pratique des hautes études ou dans mes travaux, mes articles, mes livres, je dois absolument procéder de la manière la plus rationnelle et scientifique possible. Et donc, en quelque sorte, mettre de côté cette dimension d'attachement, tout en ne me mentant pas sur le fait que cet attachement est là, à la racine même de l'intérêt que je porte à cette minorité.
Il induit forcément quelque chose.
Alors, sur un deuxième plan, pour répondre à votre question, je dirais que la caractéristique peut-être du protestantisme français, c'est précisément ce caractère minoritaire. Puisqu'il y a eu des pays en Europe dans lesquels le protestantisme a été totalement éradiqué, ceux du sud de l'Europe, il y a eu des pays dans lesquels le protestantisme est devenu la religion officielle, et la situation particulière de la France, c'est que cette conscience minoritaire et la persécution qui s'en est suivie ont forgé quelque chose de tout à fait particulier, d'un rapport critique et à la religion et à l'État. Mmh. Et je trouve que cette configuration est tout à fait passionnante et ne cesse de m'étonner.
Et finalement, aujourd'hui encore, on peut observer cela et s'en inspirer peut-être.
Je le crois, en particulier dans la contribution spécifique, modeste mais tenace et importante que les protestants peuvent avoir à l'égard des débats sur la laïcité, en particulier, dont ils n'ont pas été les derniers acteurs au moment où
évidemment,
il fallait la
mettre en place. Avant de nous quitter, Hubert Bost, j'aimerais parler avec vous pendant quelques instants, rapidement, de quelqu'un qui nous a quittés très récemment, le 4 mai dernier. C'est une grande figure de la théologie protestante francophone, le pasteur et professeur André Gounel. Il allait avoir 92 ans. Il a été, je crois, l'un de vos collègues.
Oui, lorsque j'ai enseigné 18 ans à la faculté de théologie protestante de Montpellier. Il était mon collègue. Nous nous voyions aussi beaucoup dans le cadre de la Société d'histoire du protestantisme de Montpellier. Et c'était un homme d'une érudition absolument insondable, d'une clarté pédagogique tout à fait extraordinaire, qui a marqué des générations d'étudiants. Et je dois dire, pour moi, c'était un collègue extraordinaire sur le plan de l'écoute, de l'attention et de la stimulation. C'est vraiment une grande personnalité qui nous a quittés.
Je lisais dans les nombreux messages qui ont été publiés autour de son départ, que pour beaucoup, il y avait la bonté qui ressortait comme étant un élément de sa personne et de son attitude.
Oui, la générosité et la bonté sont paradoxalement des qualités qui peuvent aller de pair avec la rigueur intellectuelle. Ouais. Et l'exigence qu'il avait à l'égard de ses étudiants, je crois que tous ceux qui se souviennent de lui se souviennent de quelqu'un pour qui cette exigence était la meilleure façon d'aimer les gens.
Merci beaucoup Hubert Bost d'être venu au micro de Soleil. Comme je le disais, vous êtes le bienvenu et nous vous accueillerons à la Maison de la Radio avec grand plaisir pour aller plus loin sur ces questions d'histoire protestante. Au plaisir de vous retrouver donc. Et je vous propose à vous et à nos auditeurs de réentendre la voix d'André Gounel. Juste quelques instants, c'était ici sur France Culture, il y a déjà quelques années, le dimanche 7 avril 2002, et il concluait une prédication sur la parabole du semeur en ces termes.
Nous avons raison de nous souvenir du passé. Nous faisons bien de regarder à l'avenir. Mais Calvin et Pascal soulignent justement qu'il nous faut aussi être attentifs à ce qui se passe, à ce que nous recevons et vivons actuellement, à ce que Dieu nous donne maintenant. Il ne faut pas sacrifier le présent pour l'avenir. Et la parabole du semeur est une parabole du présent. Elle ne parle que peu de l'origine de la semence. Elle se tait sur son avenir. Elle se centre sur la parole qui circule, qui agit et qui vivifie aujourd'hui. Parabole non pas du semeur, malgré le titre habituel, ni des terrains semés, ni de la moisson, mais parabole des semailles. Elle souligne que dans le temps que nous vivons, si Dieu ne se montre pas ostensiblement ni bruyamment, il agit néanmoins par sa parole. Elle nous parle de la fécondité de cette parole qui ne dépend pas des terrains, même s'ils ne sont pas tous mauvais. Enfin, elle insiste sur le présent, sur l'action actuelle de Dieu, sur cette parole qui vient à nous, nous atteint et nous fait porter du fruit, ici et maintenant. Amen.
Et avant d'écouter une chanson, la reprise du psaume 47, une courte information qui reste dans la thématique historique du jour, le voyage que proposent les Amitiés Huguenotes Internationales, un magnifique périple sur les pas de la Réforme en Bourgogne à l'occasion de la 20e réunion internationale de descendants de Huguenots organisée à Dijon et en Bourgogne du 22 au 28 septembre prochain. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.huguenots.fr. Pour tout renseignement complémentaire et inscription, adressez-vous aux Amitiés Huguenotes Internationales, une adresse mail contact@huguenots.fr et un numéro de téléphone, le 01 48 74 25 72. C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Maxime de Peretti de La Rocca à la prise de son. Émission que vous pouvez réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org et à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2 ce matin à 10h dans le cadre de Présence protestante, c'est votre magazine Ma foi et sur Culture dans quelques instants vos informations suivies de Talmudique avec Marc-Alain Wachnin. Très bon dimanche à chacune et chacun.
Se montre ici que pour l'honorer et pour l'adorer, on aille au devant du grand Dieu vivant. Chantez, donc chantez, c'est rare bontés d'un cœur plein de foi, chantez notre roi.